Cyril Buyse, Souvenirs de jeunesse. La Lys en Flandre est une rivière bien douce et bien charmante. Douce et paisible et heureuse, elle coule très lentement, elle coule à pain, au long de ses nœuds lâches et de ses boucles allongées, entre des rives fleuries et vertes, qui légèrement ondulent. Une poésie intime l'enveloppe et l'environne. On a toujours envie de parler doucement et de sourire sur les bords enchanteurs de la Lys. On y voudra, comme l'alouette, planer très haut dans le ciel pâle et calme et y chanter la mélodie sereine des joies simples et claires, de la fertilité des belles campagnes, de la noblesse de l'utile travail, du charme berceur des repos mérités. Les champs luxuriants et embaumés descendent de loin en pentes allongées vers la Lys. On les dirait comme attirés d'un glissement irrésistible. On dirait qu'ils veulent voir et jouir et baigner dans la douceur exquise de l'atmosphère qui se dégage de la Lys. Il y a des fermes sur les bords et des villages et des moulins et des clochers. De blanches maisonnettes s'y mirent avec des volets verts et des toits roses. Des arbres s'y penchent, grands écrins de saint verdure sur le ciel bleu. Et des barques y glissent, grises, silencieuses et lentes, avec un pêcheur qui descend son filet ou qui laisse pendre sa gaule. Et partout dans les beaux pâturages se meuvent les riches troupeaux. Ici les vaches brunes et blanches, pareilles à de très grandes fleurs brillant au soleil sur la nappe verdoyante. Là, les fortes juments et les poulains folâtres, qui soudain, parfois, partent. Crinière au vent dans un galop désordonné et brave, faisant trembler le sol et s'envoler les meutes de terre. Puis, peu à peu, à mesure qu'on descend vers le sud, l'aspect de la rivière et du pays change. Une vie plus intensive se manifeste, l'air est plus habité, les grands métairies se multiplient, des cheminées d'usines s'élèvent, l'onde elle-même semble vibrer d'une agitation secrète et bientôt apparaît à droite à gauche, sur les deux berges plates, un large et long fourmillement de petits cônes grisâtres qui semblent s'étendre et se multiplier à l'infini avec les sinuosités capricieuses de la rivière. Un monde de travailleurs y est occupé. Des chalands se chargent ou se vident, des meules s'érigent ou se disloquent, de lourds chariots vont et viennent et l'atmosphère entière est saturée d'une odeur douceâtre et pénétrante, qui semble l'odeur même, vitale et chaude, de tout un peuple et de tout un pays en travail absorbant et effréné. C'est le pays du lin, la contrée la plus riche et la plus prospère de la Flandre, riche et forte avec exubérance, belle d'une poésie particulière et farouche, belle et noble de son ardeur vivace au grand air, au grand soleil, au grand travail. Souvent, jadis, je venais dans ce pays. J'y avais des affaires. Généralement, j'y passais trois fois par semaine. J'arrivais par un des premiers trains du matin, et puis, à pied, je faisais des lieues, suivant la rivière, allant d'usine à usine, de métairie en métairie. J'aimais cette vie. Je me sentais heureux dans ce milieu. Maintenant encore, quand j'y pense, quand je songe à ce pays que j'ai tant aimé et que je ne reverrai peut-être plus, je sens des bouffées de chaleur et de tendresse émues me monter au cœur. Je marchais d'un pas alerte et vif, le long des sentiers embués de rosée. Je regardais les choses de mes yeux enthousiastes et clairs. J'échangeais un bonjour enjoué avec les passants et parfois je faisais un bout de causette avec eux. J'avais cet âge heureux où l'on sente que le monde vous appartient et où l'avenir apparaît comme un vaste horizon de lumière qui ne recèle que bonheur et beauté. Il y avait encore pour moi un autre charme étrange et tout particulier à ces excursions. Chaque fois, régulièrement, au même endroit et à la même heure, je rencontrais sur ma route une jeune paysanne accorte et jolie. Elle avait des yeux et des cheveux noirs, des joues roses et un doux et caressant sourire. Elle me disait bonjour, souriait et passait. Je répondais de même et c'était tout. C'était peu, mais cela suffisait au léger bonheur, à la félicité ambiante qui était à cette époque comme l'atmosphère même de mon insouciante vie. J'ignorais son nom et je n'éprouvais nul besoin de le connaître. Je ne savais si elle avait un amoureux, qui sait, un mari, un amant peut-être. Tout cela m'était indifférent. Il me suffisait de la voir, de la rencontrer de nouveau à chacun de mes voyages, et de recevoir son gentil salut et son joli sourire, de même que je revoyais chaque fois avec le même plaisir la Lys charmante avec ses poétiques méandres, avec ses berges et ses rives, avec les champs, les fermes et les arbres, avec les moulins et les clochers, avec toute la vie ardente et magnifique de ma belle Flandre au grand soleil d'été. Car je n'y venais que l'été, dans ce pays du travail et du lin. J'y arrivais comme un oiseau migrateur, attiré par la belle saison, et avec les feuilles mourantes je disparaissais, pour n'y plus revenir avant le renouveau prochain. Alors, parfois, pendant le long hiver, je pensais vaguement à elle. Que faisait-elle durant ces jours d'une infinie tristesse, lorsque la bise hurle et siffle dans les cimes dénudées, lorsque de noirs nuages semblent peser comme des montagnes de plomb sur la campagne désolée, ou lorsque les frimas et les brouillards l'enveloppent et la noient ainsi qu'une chose vague et molle qui a cessé de vivre. Était-elle là, dans une de ces grandes fermes tristes et sombres, assise au coin de l'âtre, auprès des vieux et des vieilles, à écouter de dolentes histoires de jadis? Où travaillait-elle à des besoins rudes, qu'en font les autres gars et filles de ferme? Et la reverrai-je au printemps, comme les autres années, jolie et accorte, me souriant de ses beaux yeux et de sa bouche rose, heureuse, elle aussi, de revoir ce monsieur qu'elle rencontrait toujours sans le connaître, ce jeune inconnu, insouciant et heureux, qui lui rendait fidèlement son salut et son sourire, et qui, tous les ans, s'en revenait et repartait mystérieusement avec les beaux jours, avec les fleurs et les oiseaux. Je ne savais, et quelquefois, je souffrais de ne pas savoir. Je me reprochais de ne pas connaître au moins son nom, et d'ignorer totalement ce qu'elle faisait et où elle demeurait. Et bien des fois, je me promettais de lui demander tout cela la saison prochaine. Mais lorsque la saison nouvelle était venue, et que je la rencontrais de nouveau comme tous les ans, fraîche, jolie, souriante, toujours à la même heure et à la même place, cela suffisait à mon facile bonheur, et je passais, affable et enjouée, sans rien lui demander. Qui sait, peut-être craignais-je instinctivement de déflorer une douce illusion, une tendre poésie. Pourquoi aurais-je demandé, et qu'est-ce que j'aurais demandé? Je ne désirais rien, rien de plus que cette rencontre régulière et fugitive, ce doux frôlement, ce charme illusoire né d'un regard, d'un mot et d'un sourire. Combien de printemps, combien d'étés, combien d'automnes l'ai-je ainsi vu et rencontré? Je ne sais plus. Les ans ont passé et tout cela est si lointain, si inaccessible à présent. Je ne comprends même pas comment ni pourquoi le souvenir s'en impose encore en ce moment, et s'en impose avec une force si grande et si tenace, comme une obsession. Ce dont je me souviens, c'est qu'un jour de printemps, à l'un de mes retours, je ne la rencontrai pas. J'en fus frappé. J'étais tellement habitué de la voir, j'étais si sûr qu'elle devait être là, à telle heure, à telle place, que j'eus l'impression décevante comme si, à mon issue, quelque chose d'important avait été changé à ma propre vie. J'en fus troublé et vaguement inquiète. J'étais mécontent et agité, comme si l'on m'eût caché une chose que j'avais le droit de connaître. Je n'osais pourtant pas m'informer d'elle. Une sorte de fausse honte, d'étrange pudeur, me retenait. Je finis par chasser l'impression désagréable de mon esprit en me disant que, sûrement, je la retrouverais à ma prochaine visite. Mais je revins et je ne la revis point. Alors, je souffris réellement. Je m'arrêtai peiné, à l'endroit fixe de nos rencontres inévitables, je consultais l'heure qui était celle de tous les autres jours, je regardais longuement la berge sinueuse et les peupliers qui gazouillaient au vent et les grandes fermes qui se tassaient au loin dans l'opulence de leurs vergers. Je contemplais d'un long regard préoccupé toutes ces choses si familières et si connues, et je me demandais qui pourrait bien m'éclaircir cet absorbant mystère, lorsque je fis s'avancer à ma rencontre un jeune garçon inconnu, un enfant qui tenait quelque chose de blanc dans sa main. Il ralentit sa marche en me voyant, et une sorte de gêne rosit sa timide figure. On eût dit qu'il voulait m'aborder, et n'osa point. « Est-ce moi que tu cherches, mon gars ?» lui demandai-je avec douceur. Il me considéra longuement, comme s'il analysait scrupuleusement tous les détails de mon visage. Enfin, il répondit quelque peu hésitant, « Peut-être bien, monsieur. » À mon tour, je l'examinai avec attention. Il avait des yeux vifs, des cheveux noirs et des joues fraîches. L'expression de ses traits ne m'était pas tout à fait étrangère. Je devais l'avoir rencontré déjà, où il me rappelait une physionomie bien connue. « Et que me veux-tu, mon petit ? » dis-je avec un sourire encourageant. Il me tendit l'objet qu'il tenait dans sa main. Instinctivement, avec un léger frisson, je reculai d'un pas. La chose qu'il m'offrait était une de ces cartes mortuaires à images, encadrées de deuil, comme on en distribue dans les églises de Flandre, après un enterrement. Mon geste le troubla. Une expression de grande déception et de tristesse assombrit soudain sa juvénile figure, et je fis scintiller des larmes dans ses yeux. « C'est de ma sœur, » dit-il d'un voix rauque. « De sa sœur ? Que voulait-il dire et qui était sa sœur ?» Brusquement, j'avançai la main et pris la carte. Au milieu se trouvait la pâle reproduction lithographique d'un portrait de jeune fille et au ferzo, sous la tragique croix noire, je lus un nom, un doux nom et deux dates, de naissance et de décès, bien rapprochés. Mes yeux se voilèrent, ma main trembla. C'était elle. Alors, le jeune gamin parla. Sa sœur était tombée malade durant l'hiver. Longtemps, elle avait toussé, puis elle avait craché du sang. Lentement, elle s'était sentie dépérir. Et dans sa maladie souvente, bien souvente, elle avait parlé de ce monsieur si aimable et si poli qu'elle rencontrait toujours l'été et dont elle ignorait le nom. Elle aurait voulu le revoir. Elle eût voulu lui écrire parce qu'elle s'intéressait à lui et qu'elle croyait que lui aussi s'intéressait à elle. Mais elle ne savait où le trouver. Alors, avant de mourir, elle avait bien fait faire son portrait, qui serait reproduit sur l'image de deuil distribuée à l'église. Et son petit frère avait dû lui promettre qu'il en garderait une pour la remettre en son nom, comme souvenir, au monsieur étranger, lorsqu'il reviendrait à la saison nouvelle, comme tous les ans, dans le pays du lin. Je ferme les yeux, et du fond de l'exil je contemple en mon souvenir attendri cette douce et tendre image d'un si lointain passé. Je vois la rivière sinueuse, reflétant entre ses berges vertes l'immensité d'un ciel bleu sans nuages. Je revois les grands peupliers de la rive dont les feuilles transparentes gazouillent au vent. Je revois au loin le clocher du village, les cheminées d'usines, les moulins et les fermes. Je revois la vie ardente des travailleurs courbés à terre et la calme traînée des chalands qui glissent sur l'onde. Et puis je vois et j'entends ce jeune gamin doux et timide qui m'apporte le dernier souvenir de sa sœur. Je n'y suis plus retourné. Je n'y retournerai jamais, peut-être. Mais avant de quitter le jeune gars, je lui ai demandé où habitait sa sœur, et de loin il m'a montré une petite maison solitaire, sur un léger coteau, près d'une route blonde, au milieu des champs. Elle est blanche, avec une plinthe noire et un toit de chaume. Elle a une petite porte et deux petites fenêtres. Elle est entourée d'une haie vive dans laquelle il y a une petite grille peinte en gris et un noyer géant l'ombrage, comme un immense parasol. C'est là qu'elle habitait. J'ai demandé au gamin dans quelle chambre elle était morte. Il m'a indiqué la fenêtre à gauche, à demi cachée par le tronc du noyer. Je ferme les yeux et je songe. Existerait-elle un cœur, l'humble chaumière blanche et grise, seule sous son immense noyer, sur le léger coteau? A-t-elle résisté aux ans et aux tourmentes, et qu'est-elle devenue dans le cataclysme épouvantable qui a ravagé et dévasté la patrie? Est-il resté au moins, pendu au pauvre mur blanchi, encadré de deuil et pieusement orné d'une petite touffe fanée de buis béni, une douce et pâle image à moitié effacée par le temps, image pareille à celle que j'ai reçue et qui dort, elle aussi, depuis de longues années au fond d'un vieux bahut en Flandre, comme dort, du repos éternel, dans la terre natale et sacrée, la naïve et charmante inconnue, que je n'avais fait qu'entrevoir dans la vie et qui pourtant, à l'heure dernière, avait pensé à moi.